France Inter. Éric Delvaux. Le 6-9 du week-end.
Bonjour Jacques Attali.
Bonjour.
Économiste et intellectuel. Votre dernier livre paru chez Fayard a pour titre « L'histoire des médias », histoire au pluriel. Aussi un livre d'histoire au singulier. « Histoire des médias » depuis les signaux de feu et puis les forums de pierre, forums parchemin ensuite, jusqu'à l'information dématérialisée. Et au final, un avenir bien sombre hein, que vous décrivez, bien sombre pour les démocraties menacées à force de désinformation, à force de manipulation. Et vous nous direz aussi quelles sont les pistes possibles pour éviter le pire. Les maîtres, écrivez-vous, les maîtres, ce sont ceux qui ont accès à l'information, ceux qui ont accès aux secrets, aux lettres confidentielles, ce qu'on appelle aujourd'hui les newsletters. Eh bien, ça ne date pas d'hier.
Non, les newsletters, ça date du XIVe siècle, en fait, puisque c'est là que quelques marchands italiens, vénitiens, romains, puis ensuite remontant vers l'Allemagne et la Flandre, comprennent que les lettres qu'ils échangent les uns avec les autres, simplement pour leurs affaires, depuis longtemps, par les postes plus ou moins sûrs qui existent, ont aussi une valeur pour d'autres que leurs destinataires directs, c'est-à-dire qu'ils contiennent des informations qui peuvent intéresser d'autres. Donc ils enlèvent ce qui est vraiment spécifique à leur commerce, et ils en font des lettres manuscrites, recopiées à la main par eux ou par des employés, qu'ils commercialisent auprès de princes ou auprès d'autres marchands. Et ça donne les premières, ce qu'on s'appelle en italien « avisi », les avis, oui, qui vont être vendus à Venise, une pièce d'un ducat, dont la face est une pie, un oiseau pie, qui en vénitien se dit gazzetta, ce qui va donner le nom de gazette, qui va ensuite rester quand l'imprimerie au milieu du
16e, 17e,
voilà, un peu avant même, va commencer à être généralisé, enfin à paraître être généralisé, et où ce genre de lettres numériques vont devenir de lettres manuscrites vont devenir des périodiques. D'abord en Allemagne, puis avec l'extraordinaire accélération liée à la réforme luthérienne et à l'usage que Luther fait de l'imprimerie, on va arriver au premier quotidien en Allemagne, puis surtout aux Pays-Bas.
Pourquoi ces deux pays d'ailleurs, Allemagne et Pays-Bas, dans la création du métier
L'Allemagne parce que c'est sur la route entre les Pays-Bas et l'Italie, qui sont les deux centres économiques majeurs. C'est aussi le lieu de débarrage de l'imprimerie et de la réforme qui va être un lieu pendant un moment de liberté d'expression, et puis les Pays-Bas, parce que ça devient avec toute la Flandre, la première puissance économique mondiale, est véritablement le lieu d'une certaine liberté d'expression, ce qui fait d'ailleurs que les premiers, les plus importants journaux au XVIIe et XVIIIe siècle, surtout à la fin du XVIIe, début du XVIIIe, sont des journaux en français, mais aux Pays-Bas, par des émigrés français.
Enfin, liberté d'expression, liberté de la presse, ça n'empêche pas la censure et même les crimes. La tentation d'avoir des médias aux ordres, là non plus, ça ne date pas d'hier.
Ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas. D'abord, les médias avant l'imprimerie étaient aux ordres, puisque c'était pour l'essentiel des crieurs ou des ordres lancés par les princes. Et puis ensuite, même quand la presse commence un peu presque libre aux Pays-Bas, elle est très sous contrôle en France, puisque le seul journal autorisé, c'est la Gazette de Théophras Renaudot, qui est une feuille de propagande, et qui est rien d'autre qu'une feuille de propagande. Il faut attendre la grande bataille que les Hollandais, puis les Anglais, puis les Américains vont mener pour inscrire dans leur droit jurisprudentiel ou légal le droit de la liberté d'expression et de la liberté de la presse pour que la presse puisse s'épanouir. En France, c'est dans les quelques jours qui suivent le début des états généraux que la presse est véritablement libérée.
En faisant un bond dans le temps, Jacques Attali, on se dit que l'âge d'or, au fond, de la presse, de la radio et de la télévision, ça commence à peu près après la Seconde Guerre mondiale, et ça va jusqu'à l'an 2000, grosso modo.
C'est là, à ce moment-là, où il y a, pour les trois médias, d'abord, chacun des médias a cru que l'autre allait le tuer, et ça n'a pas été le cas. Ouais. La presse a eu très peur de la radio, elle a même été interdite, vous voyez, les journaux que vous faites le matin, pendant très longtemps, c'était interdit, parce qu'on disait, on disait à la radio, allez lire votre quotidien. Puis on s'est rendu compte que l'un et l'autre s'enrichissaient, et la presse, la radio et la télévision, en effet, étaient en période de croissance extrêmement forte.
Dans le monde entier, parce que vous parlez aussi du Japon, évidemment, voilà. Des États-Unis.
Oui, dans le monde entier, les trois médias sont exposés. Évidemment, au Japon, qui reste aujourd'hui le premier pays au monde de la presse écrite, il n'y a plus un journal européen, il y a un seul journal américain dans les 10 premiers quotidiens mondiaux. Il faut bien voir les choses avec une perspective plus vaste. Donc, en effet, cette période a été extraordinaire d'expansion, d'inventivité, de créativité. En France, c'est là où des journaux nouveaux comme Libération sont apparus. Aux États-Unis, c'est là comme plein de journaux sont apparus. La télévision a changé, la radio a changé. En France, à partir des années 80, les radios ont été beaucoup plus créatives et libres qu'elles ne l'étaient avant. Et donc, en effet, ça a été une période de croissance exceptionnelle pour tous. Mais sans voir que d'une façon souterraine, quelque part ailleurs que chez eux, commençait quelque chose qui allait leur nuire, c'est-à-dire Internet.
Le quatrième média qui est arrivé depuis l'an 2000. Vous écrivez d'ailleurs que les médias puissants ont un but caché, c'est de prolétariser, de manipuler les masses. Alors on verra dans un instant que le pire est à venir. Mais cette manipulation avec les Internet depuis les années 2000, elle se manifeste comment ? Dans les réseaux sociaux ?
Dans les réseaux sociaux, elle se manifeste d'abord parce que le fait que les réseaux peuvent donner des informations à peu près gratuitement rend très difficile de maintenir des journaux papier qui rémunèrent correctement des journalistes.
Vous êtes pour la protection des journalistes et pour pour qu'ils mènent, eux, l'info.
Absolument. Je crois que la clé de notre avenir, c'est la protection de la vérité. Et il y a deux acteurs qui vont être essentiels pour la protection de la vérité, c'est les journalistes et le monde universitaire. Ce sont les deux acteurs de la défense du vrai, qu'il va falloir enseigner aussi à l'école. Ça, c'est essentiel. Donc, les journalistes doivent être absolument défendus comme une profession qui a du sens. Et en même temps, même si on peut voir, en effet, d'immenses dangers, il y a quand même des éléments qui conduisent à être optimiste, parce qu'il y a 7 ou 8 milliards de personnes sur la Terre qui ont de plus en plus de connaissances, de savoir, qui ont envie de lire, de comprendre, qui sont intéressés par la vérité. Donc, il y a une demande de vrai. Maintenant, c'est vrai que, pour répondre à votre question, les réseaux sociaux sont des machines à broyer la presse, puisqu'ils lui volent ou lui prennent, selon l'expression qu'on veut utiliser, sa publicité, au point que la presse écrite a pratiquement plus d'avenir possible ainsi, et que pour
elle n'a plus d'avenir, vous disiez qu'on pouvait être complémentaire. Est-ce qu'on pourra continuer à avoir les deux ?
Voilà, on était complémentaires, les trois étaient complémentaires. Avec Internet, c'est possible d'être complémentaire à condition qu'il y ait des régulations qui ne sont loin d'être imaginables encore aujourd'hui, où les grandes machines comme Google ou comme les autres grands acteurs des réseaux sociaux accepteraient de mettre à nu leurs propres algorithmes et qu'on permettra de voir et de faire en sorte que toutes les informations que les lecteurs de journaux donnent à ces réseaux ou à ces applications ne leur sont pas volées pour leur permettre de prendre toutes les informations dont ils ont besoin pour remplacer les journaux en question dans les recettes publicitaires.
Parce que le pire que vous décrivez dans votre livre, il montre déjà le bout de son nez et il a plusieurs visages. Par exemple, la puissance des GAFAM, plus riches que certains États. Alors donc, vous êtes, Jacques Attali, pour leur démantèlement. Comment est-ce que l'on découpe le monstre en lots pour réduire son influence ?
C'est évidemment une décision utopique et politique. Elle, dans l'état actuel du droit, elle suppose une action de l'État américain. Que l'État américain a fait à plusieurs reprises déjà, quelques reprises avec le pétrole, avec les télécoms et avec ce qu'on appelle les utilisés.
Mais vous dites qu'à l'époque, c'était moins puissant que la puissance des GAFAM.
C'est en effet... On peut penser même aussi que les GAFAM ou les GAFAM peuvent, les GAFA et leurs équivalents chinois. Il faut bien regarder ce qui se passe en Chine.
C'est Alibaba qui est mis au pas.
Voilà, le gouvernement chinois a compris, lui, très vite que le Parti communiste n'avait aucun intérêt au développement de cette puissance privée sans contrôle. On peut penser que ces grandes puissances auront aussi peut-être un jour intérêt à couper en morceaux leurs actionnaires, ne serait-ce que pour survivre, et où leurs métiers sont si différents à l'intérieur d'eux-mêmes qu'ils peuvent le souhaiter. Mais on ne peut pas laisser des grandes machines comme ça, non pas seulement se développer de façon monopolistique, non pas seulement prendre tout ce qui est, mais surtout, ils sont en train de racheter tout ce qui bouge. Dès qu'il y a une technologie, une innovation, etc., ça vient chez eux, et donc ça complète leur paysage, donc ça interdit la concurrence. S'il y a une vertu du marché, c'est la concurrence.
La concurrence.
Et s'il n'y a pas de concurrence, le marché a perdu toute la raison d'être.
Parce qu'aujourd'hui, le deal entre les GAFAM et leur public, c'est un donnant-donnant. Je te confie mes données personnelles et mes goûts de consommation. Moyennant, j'ai un droit d'accès quasi gratuit à la plateforme. Ce contrat, il va changer, il doit changer selon vous ?
D'abord, il faut regarder les faits comme ils sont. Si on proposait aux gens qui nous écoutent, est-ce que vous êtes prêts à avoir accès à tous les réseaux sociaux ? sans qu'on prenne vos données, sans qu'on vous impose de la publicité, sans qu'on vous fasse des prescriptions publicitaires, en échange d'une paiement pour avoir accès à ces services de moteurs de recherche, d'email, etc., les gens diraient pour majoritairement non. Ils préfèrent abandonner ces privilèges au profit de la gratuité. On peut comprendre et le respecter. Mais c'est ainsi. Donc
il y a des habitudes de prise.
Des habitudes de prise, et puis c'est un choix d'usage des peu de ressources qu'on peut avoir.
Jacques Attali, c'est au fond toute la condition humaine, hein, il faut en prendre la mesure, qui se joue dans les histoires des médias, et le combat, en plus, est absolument planétaire.
Il est planétaire, parce que tout ça maintenant est évidemment très global, et puis surtout, comme on n'a pas vu naître les réseaux sociaux, on est peut-être en train de ne pas voir naître ce qui vient après les réseaux sociaux.
On va en parler tout à l'heure, notamment les hologrammes.
Voilà, parce que les réseaux sociaux ne sont qu'une étape dans une
évolution. Les hologrammes qui nous survivront.
Voilà, ce n'est qu'une étape dans une évolution beaucoup plus vertigineuse encore que cela. Mais en effet, c'est planétaire, le virus est planétaire, voilà encore un autre enjeu qui l'est.
Un virus planétaire. À propos de régulation, j'y reviens. L'Europe, elle a tenté de remettre un peu d'ordre dans la protection de nos données personnelles. Le RGPD date de 2016, à peu près 5 ans après. Quel bilan en faites-vous ?
Je crois comprendre qu'il n'est pas très appliqué. C'est-à-dire que les gens acceptent les cookies sans véritablement chercher à
vérifier. On accepte facilement.
Voilà, on accepte parce que c'est plus commode. Donc le RGPD n'a pas rempli son rôle. Et la nouvelle réglementation très louable proposée à juste titre par la Commission européenne et par le commissaire Thierry Breton, qui va dans la très bonne direction, s'il n'y a pas un appui américain, aura beaucoup de mal à se mettre en œuvre, parce que les entreprises en question auront tous les avocats du monde pour plaider, tant à la Commission...
Et faire durer les procès pour faire payer. Voilà. À propos de démantèlement, j'y reviens aussi. Pourquoi démanteler en priorité, selon vous, les trois, Google, Amazon et Facebook ?
Ce sont les plus ceux dont la dynamique de croissance est la plus dangereuse, parce que juste pour la raison que je disais tout à l'heure, ils sont en train d'avaler les innovations externes. Dès qu'il y a une start-up qui apparaît et qui porte quelque chose de nouveau, en particulier en matière de médias, mais dans d'autres domaines comme le commerce ou comme la distraction, ou comme même l'éducation, même la santé, ils sont à la recherche de tout ça. Ils l'avalent avec parfois beaucoup d'échecs. Hein, les échecs de Google dans les innovations sont considérables. Ils ont fait tenter des lunettes numériques qui ont servi à rien, une voiture numérique qui a pas marché, etc. Il y a des erreurs, il y a des échecs, mais il y a aussi des choses qui marchent. Et leur puissance, c'est d'être capable de prendre des risques, de perdre de l'argent sans que ça se leur nuise trop.
Et il y a quelques semaines, WhatsApp a annoncé la révision de ses conditions d'utilisation pour mieux partager nos données personnelles avec la maison mère Facebook. WhatsApp a même menacé de fermer le compte des utilisateurs qui refuseraient d'accepter ce changement de conditions d'utilisation. Ça a provoqué un tollé et un début de migration vers d'autres plateformes du même type, type Signal. Quelle leçon, Jacques Attali, tirez-vous de cette séquence ?
Bien, c'est révélateur, parce que la raison pour laquelle WhatsApp et Facebook se rapprochent, c'est justement pour rendre plus difficile le démantèlement du groupe et leur séparation, puisqu'ils sont davantage intégrés. Donc c'est une mesure préventive avant une action éventuelle du gouvernement américain. Il faut noter d'ailleurs que le gouvernement américain a annoncé quelque chose qui va dans le très bon sens, puisqu'ils ont réaccepté d'ouvrir la négociation.
Le gouvernement Biden.
Voilà, sur une fiscalité mondiale des GAFA, qui serait vraiment une occasion de trouver des ressources. Alors, les GAFA se défendent en disant qu'ils donnent de l'argent à la presse. Moi, j'emploie une formule dans le livre qui est un peu cruelle, mais que je crois vrai. C'est-à-dire que c'est vrai, les GAFA donnent un peu d'argent aux journaux, mais c'est pour financer leurs funérailles.
Le pire, dans un avenir proche, ce sont aussi, vous l'avez évoqué, les journalistes remplacés par des algorithmes. Journalisme, donc, un métier qui n'aurait pas d'avenir. Ça veut dire quoi? Vous, parmi vos pistes pour en sortir, vous demandez à ce qu'on aille voir un petit peu comment marchent les algorithmes pour mieux les contrôler?
C'est très important et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut que les grandes compétences soient pas seulement dans les GAFA qui ont les moyens de les payer, mais soient aussi chez les régulateurs qui doivent avoir les moyens de payer des ingénieurs de très très haut niveau, et que des ingénieurs de très haut niveau aient envie d'aller chez les régulateurs et pas seulement dans les GAFA, ce qui est difficile à imaginer, mais c'est ça qu'il faudrait. Et il faudrait rendre public ces techniques pour éviter ce qui vient, parce qu'on est, on commence à aborder l'avenir.
Mais comment les laisser accepter de nous mettre le nez, notre nez, dans leurs affaires?
La règle, la loi. La loi. Parce qu'il y a bien des domaines où on demande aux gens de nous dire ce qu'il y a dans leurs produits. On ne laisse pas commercialiser un produit alimentaire sans savoir ce qu'il y a dedans.
Et aujourd'hui, il y a une volonté politique de le faire?
Il y a une volonté, ça doit être mondial. Donc le problème, c'est qu'il n'y a aujourd'hui pas de forum mondial, pas d'institution mondiale. L'OCDE n'est pas une institution véritablement mondiale, c'est la seule institution internationale, à mon avis, qui marche vraiment. Mais elle n'est pas tout à fait mondiale, la Chine n'y est pas. Bien d'autres n'y sont pas, c'est seulement les grandes puissances occidentales et autour de l'Occident. Qui sont issus du plan Marshall au départ. Donc c'est une structure qui marche, mais elle n'est pas mondiale. Et tant qu'il n'y a pas un forum mondial pour régler des questions mondiales, on n'y arrivera pas.
Et puis il y a ce monde qui s'approche, c'est celui de l'hologramme. D'ici 20 ans, écrivez-vous, ça ressemblera à quoi ce monde d'hologramme, et surtout avec quel danger?
On en a déjà une expérience avec les jeux vidéo. On voit bien que les jeux à trois dimensions existent. On voit même une expérience qui a été faite récemment d'un journaliste qui a tenté de mettre en œuvre un conflit sous forme d'expérience 3D. On voit le glissement. Le glissement, c'est les articles écrits automatiquement. Ça existe déjà. Par des hologrammes, par des gens.
Des algorithmes.
Des algorithmes qui connaissent votre style, ou le style de Proust, ou de Nancy Houston, ou qui en voudra et qui écrivent à sa place. On voit des hologrammes journalistes, ça existe déjà. Et demain, donc, on peut imaginer assez vite des hologrammes journalistes présentateurs, mais discutant avec des hologrammes d'interlocuteurs qui seront pas là, mais qui seront là virtuellement. Et puis plus loin, pas beaucoup plus loin, on peut imaginer que dans la télévision, on ne sera plus en deux dimensions, mais on pourra voir de chez soi les événements en trois dimensions.
Et la difficulté sera pour nous de discerner le vrai du faux, le virtuel du réel.
Voilà, comme dès aujourd'hui, on a du mal à le faire.
D'où la nécessité d'être formé.
D'où la nécessité véritablement cruciale de développer les moyens de distinguer le vrai du faux.
Mais alors, nous avons beaucoup de chance ici à France Inter, parce que vous dites que la radio, vous écrivez que la radio est finalement le métier nomade, le média nomade de l'avenir, et qu'on va l'écouter sur d'autres supports, mais qu'on continuera de l'écouter.
Oui, ça semble être le média, à l'heure où nous parlons, qui a le plus de chances de survivre en tant que tel. On peut l'écouter n'importe où. Alors évidemment, pendant la pandémie, on se promène moins, on est moins nomade, mais malgré tout, on peut l'écouter où on veut. Et puis, l'invention du podcast donne une deuxième dimension, une deuxième vie, et non seulement une vie aux émissions, mais la possibilité de faire d'autres programmes. On le voit, on peut imaginer d'ailleurs une liaison qui devrait exister, à mon avis, mais qui n'existe pas encore assez, entre les universités et la radio, où les radios pourraient commander aux universitaires des podcasts, et pas seulement les commander à leurs journalistes, mais faire une sorte de gigantesque librairie de podcasts.
Banque de données.
Une bibliothèque, je préférerais dire, une bibliothèque de podcasts, où on demanderait à des universitaires associés à des journalistes qui auraient la compétence de mise en onde, si j'ose dire, pour employer un vieux mot, qui permettrait de rendre ces programmes attractifs. Il y a un potentiel et un avenir absolument gigantesque pour des milliards de gens qui ont envie de se cultiver.
Un dernier mot sur les fausses informations, les fake news que Donald Trump n'a pas inventé. Hein. Il y a 2000 ans déjà, oui. Il y avait des fausses informations, toujours dans le même but, renverser le pouvoir.
Oui, je donne l'exemple d'une bataille qui a conduit au renversement dans l'Empire romain, qui était essentiellement lié
avec l'empereur Octave, qui avait adopté Jules César.
Bravo, à une fausse nouvelle. Et cette fausse nouvelle a créé les conditions de renversement géopolitique majeur.
QAnon, aujourd'hui, ne fait pas autre chose quand il dit que Joe Biden fait partie d'un réseau pédophile.
C'est très intéressant. Je raconte la généalogie de QAnon, qui commence au Japon, d'ailleurs, curieusement. Et cette généalogie montre bien, en effet, que QAnon, qui a démarré tout petit par un petit geek japonais, est devenu un lieu extrêmement important de messages souterrains, comme il y en a plein, comme il va en avoir plein, qui vont dire du vrai, du faux et du vrai. On aura le plus grand mal à le distinguer. Il faut vraiment, c'est mon cri d'alarme, développer les moyens de savoir le vrai le plus vite possible.
Et de ne pas être des victimes consentantes.
Et de ne pas être des victimes consentantes.
Apprendre à s'informer. QAnon, qui est régulièrement relayé par la chaîne américaine Fox News. On lira tout ça dans ce livre très riche. Merci beaucoup, Jacques Attali. Je vous redonne le titre de ce livre, Histoire au pluriel, Histoire des médias. des signaux de fumée aux réseaux sociaux. Et après, et dans le après, on en a donné un bref aperçu. Merci beaucoup Jacques Attali d'être venu en parler ce matin sur France Inter.